On va parler de la situation en Iran à présent et nous sommes en ligne avec Georges Malbruno qui est grand reporter au Figaro. Bonsoir Georges.
Bonsoir.
Merci d'être l'invité de Radio Shalom. Je voudrais avant tout rappeler, je ne sais pas, deux ou trois de vos derniers livres. D'abord le dernier, c'est le déclassement français au Moyen-Orient et au Maghreb. Le précédent concernait un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité puisque c'est le Qatar. Donc le livre précédent s'appelait le Qatar Papers sur l'influence, sur le lobbying, sur tout le travail qu'accomplit ce régime qui se réclame ouvertement de l'idéologie des frères musulmans. Et vos livres sont publiés chez Michel Lafon. Parlons cependant de l'Iran, parce que Georges Malbruno, on avait eu le plaisir d'entendre une de vos analyses sur Radio Shalom nous disant « Je pense que ça va être difficile d'aller plus loin ». Or, il se trouve qu'on a dépassé les 60 jours de révolte. Que maintenant les affrontements se font à l'arme à feu, pas forcément du côté des manifestants, mais maintenant ça y est, on parle d'arme à feu. Et 60 jours c'est beaucoup pour n'importe quelle révolte, et c'est pas seulement dans un seul secteur. Donc voilà plusieurs raisons qui font que des gens commencent à se dire qu'il se passe quelque chose d'important. Et peut-être aussi souligner avant de vous céder la parole, lorsqu'une équipe nationale de n'importe quel pays, et encore plus d'un pays au Proche-Orient où le football joue un rôle de fierté nationale essentiel, décide de protester de la sorte sous les yeux du monde entier, on n'est pas là dans une simple révolte d'étudiants ou de filles en colère qui n'ont pas envie de porter le voile en allant faire des courses. On est sur, et je suis très très loin d'être méprisant avec ce mouvement de contestation, on est cependant, quand on voit une chose pareille sur nos écrans de télé, on se dit il se passe quelque chose d'important. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah oui, c'est certain qu'il se passe quelque chose de très important, d'inédit, que des tabous ont été brisés, le nom du guide est conspué, insulté, matin, midi et soir en Iran, par des milliers de jeunes, hein, de jeunes garçons, de jeunes filles. On assiste à un divorce entre la société et le régime iranien. Les manifestations continuent, comme vous le disiez. Elles sont concentrées essentiellement pour plus de la moitié au Kurdistan et dans les zones au sud-est, dans les zones au Baloutchistan, donc deux régions qui sont historiquement en quasi-rébellion contre le pouvoir, mais se déroulent aussi également d'une façon moins nombreuse dans les grandes villes comme Téhéran. Je ne crois pas qu'on soit dans une révolution. Le mouvement est révolutionnaire, mais la situation n'est pas révolutionnaire. Je ne suis pas le seul à le dire. Des historiens iraniens le disent aux États-Unis, comme Peyman Jafari. Le mouvement est révolutionnaire parce que, pour les raisons que je vous indiquais, hein, inédit, tabou brisé, le mur de la peur est brisé. On ne veut plus revenir en arrière. On a renoncé à espérer faire évoluer le régime, mais la situation n'est pas révolutionnaire parce que il n'y a pas une puissance de la rue derrière ce mouvement. Pour l'instant, il n'y a pas un effet de masse, il y a des manifestations, mais il n'y a pas 500 000 personnes chaque jour dans les rues de Téhéran, et 500 000 personnes, voire plus, comme il y avait en 2009, hein, il y avait 2 millions de personnes qui ont manifesté une journée à Téhéran lorsque le résultat de l'élection présidentielle avait été truqué. On n'a pas cet effet de masse qui pourrait conduire justement à... il y a un moment donné, pour qu'on passe à la phase révolutionnaire, il faudrait que les classes sociales se joignent au mouvement, que les grèves nationales aient lieu. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais on n'en est pas là encore. Des grèves ont eu lieu, sporadiques, hein, dans certains secteurs, au bazar, dans la pétrochimie, ailleurs, mais il n'y a pas de grève à répétition, et les classes sociales hésitent encore à se joindre au mouvement parce qu'elles ne savent pas de quel côté ça peut tourner. Le régime est dans sa logique de répression, hein, maximum, enfin en tout cas forte, très très forte, sanglante, contre les Kurdes et contre les Baloutches, ça c'est sûr. Ailleurs, on est encore loin, je pense, d'une répression maximum, parce qu'il n'en a pas besoin. Pensant épuiser ce mouvement, pour l'instant, il n'y arrive pas. Il y a quelques voix dissidentes, hein, au sein du régime, au sein du clergé, des grands ayatollahs qui ont dit « il faut réformer », etc. Le président du Parlement, Mohamed Bakr Khalibaf aussi. Mais le régime n'est pas ébranlé. Je vous citerai quelqu'un qui est, me semble-t-il, bien informé. C'est le patron des renseignements militaires israéliens, hein, qui hier, le général Aaron Alivak, qui disait On assiste à un début de révolte populaire, hein, on est au commencement d'une révolte populaire, mais le régime n'a pas de problème pour l'instant de survie. Pour l'instant, hein, voilà, je ne dis pas que dans 6 mois on ne sera pas là, mais pour l'instant, je crois que le tableau est celui-là. Il y a une contestation qui ne s'éteint pas, parce qu'il y a un divorce, il y a un courage, il y a une bravoure extraordinaire de la part de ces jeunes qui n'ont rien à perdre, alors que les autres, les actifs, eux ont à perdre, à s'engager, à s'enrôler dans ce mouvement. Cette contestation, pour l'instant, ne s'éteint pas. Est-ce que le régime peut céder sur le voile, j'ai tendance à penser que non. J'ai tendance à penser que le régime va arriver tôt ou tard à une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire à force de réprimer, arriver à éteindre ce soulèvement. Cela étant, il peut y avoir aussi tôt ou tard des marches beaucoup plus grandes, avec un bain de sang, avec des bavures commises, qui pourraient permettre justement au reste de la population de rentrer dans ce mouvement. Donc, l'histoire n'est pas écrite, mais pour l'instant, je crois qu'on en est là.
À plusieurs choses. D'abord, une victoire à la Pyrrhus, Georges Malbruno, on la perd plus tard, la victoire. C'est pas bon, les victoires à la Pyrrhus.
Oui, non,
on croit qu'on a gagné, mais on n'a rien gagné. Deux ans après, on tombe.
Voilà, moi, je pense que mon sentiment, c'est que, et je ne suis pas le seul à penser comme ça, c'est que le régime qui a le monopole de la force, est-ce que, face aux manifestants, va arriver tôt ou tard à éteindre ce soulèvement, probablement. L'élément déclencheur, ensuite, le game changer, ça pourrait être la succession du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui est un vieux monsieur de 83 ans, qui est malade, mais bon, il ne veut pas forcément mourir demain ou après-demain. Mais peut-être plus que cette révolte, ce qui pourrait changer, c'est sa succession. Il y a plusieurs options. Est-ce que quelqu'un de son calibre va être nommé? Auquel cas, là, le régime est condamné à court terme, parce qu'aujourd'hui, il est conspué, Khamenei, son successeur le serait de la même façon. Ou est-ce qu'on assistera alors à l'émergence d'une dictature militaire sous la houlette des gardiens de la Révolution, un peu sorte de régime à l'égyptienne, avec un homme fort, mais appuyé sur l'armée, et qui écarterait les mollahs, qui écarterait le clergé, et qui par transition désislamiserait la République islamique. C'est peut-être, à mon avis, le scénario peut-être le plus souhaitable, hein, pour éviter un bain de sang. Mais là, ce ne sont que des scénarios. Mais en tout cas, oui, on est aujourd'hui dans deux logiques irréductibles. On voit que le régime n'a pas l'intention de céder, et de l'autre côté, les manifestants, les jeunes manifestants, n'ont pas l'intention de céder.
Et il y a une troisième composante. Cette troisième composante, c'est tous les gens qu'on voit sur toutes les vidéos. Aujourd'hui, on voit tout par vidéo. Mais surtout, ce qui est très étonnant, c'est le comportement de la rue. Dans les bus, dans les métros, lorsque des filles se font arrêter sur les trottoirs, la population ou bien soutient la fille arrêtée, ou bien de toute façon ne fait rien. Et dans un pays qui a connu une telle évolution, une telle ébullition, en Iran, c'est pas en Norvège, hein. C'est très très parlant, c'est très frappant de voir ça.
Oui, c'est ce que je vous dis, il y a un divorce qui est un vrai divorce, mais entre le divorce et ensuite passer à l'action et aller combattre ce régime, il y a un hiatus. C'est ça ma réserve, moi. Bien sûr qu'il y a un divorce. Moi, j'y vais depuis 25 ans. Le divorce, il a été crescendo. Ensuite, il est redescendu parce qu'il y a eu les années réformatrices. Et puis ensuite, il est remonté parce qu'il y a eu, depuis 2 ans, Raisi et tous les ultra-conservateurs autour du guide, son fils, les gardiens de la Révolution, se sont regroupés, le pouvoir s'est calcifié, et en vue de la succession du guide, etc. Donc le divorce, aujourd'hui, il est consommé, c'est sûr, mais les Iraniens, entre un divorce consommé et ensuite aller prendre les armes qu'ils n'ont pas, hein, qui va leur fournir les armes? Comment va se structurer le mouvement? Comment va s'armer le mouvement? Ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je sais qu'il y a des armes dans les zones, notamment dans les zones tribales, dans le sud-est, chez les Arabes, au Balouchistan. chez les Kurdes, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'elles peuvent venir par le Kurdistan irakien, peut-être que certains pays ennemis de l'Iran ont intérêt à souffler sur les braises, mais il faudrait donc de l'armement pour que ces jeunes puissent un jour ou l'autre justement marcher, parce que aujourd'hui, vous avez dans Téhéran, vous avez 25 lieux de manifestation le soir, on monte sur le toit, on crie mort au dictateur, etc. Bon, c'est pas ça qui va faire tomber le régime. Ce qui pourrait faire tomber le régime, c'est qu'un jour ou plusieurs jours, il y ait 500 000 personnes qui marchent sur la présidente de la République, sur le Parlement, sur la télévision, éventuellement sur la guidance, et qui arrivent à prendre les symboles du pouvoir. Mais pour prendre ces symboles du pouvoir, il faut qu'ils soient armés, et pour qu'ils soient armés, ben, il faut qu'on leur donne des armes, il faut également qu'il y ait, si vous voulez, un début de structuration de ce mouvement. Il faut que les Iraniens qui sont aujourd'hui dans le doute, même s'ils n'aiment pas ce régime, voient apparaître des têtes. Aujourd'hui, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de mouvement d'opposition à l'étranger qui représente les Iraniens. Donc, ça fait beaucoup de points d'interrogation qui font que il y a encore, on n'est pas passé dans la phase révolutionnaire.
Alors, ma dernière question, est-ce que à l'inverse, on peut considérer que de toute façon, plus rien ne sera comme avant ? Ok, pas de révolution tout de suite, on a très bien entendu, on est même d'ailleurs, je pense que c'est très convaincant ce que vous dites. Mais à l'inverse, est-ce que c'est quand même pas le premier mouvement, la première révolution verte, elle vient d'Iran, c'est pas la première fois. Est-ce que cette fois-ci, on peut dire, d'ailleurs parce qu'il y en a eu plusieurs, et parce que celle-ci s'est passée comme elle s'est passée, je répète, l'équipe nationale d'Iran, ce gamin de 10 ans qui est devenu une icône, ils l'ont tué, 10 ans.
Oui.
Est-ce qu'à l'inverse, attendez, excusez-moi, je vous cède la parole, évidemment, c'est votre point de vue qui nous intéresse, pas le mien. Est-ce qu'à l'inverse, il s'est passé quelque chose qui fait que ça pourra pas recommencer très longtemps, voilà, ça pourra pas recommencer très longtemps comme avant?
C'est probable, c'est très probable, parce que, je vous dis, j'étais ce matin avec un ami iranien qui est arrivé de Téhéran, il me disait dans le nord de Téhéran, vous avez 2 ou 3 femmes sur 4 qui n'ont plus le voile. Il me disait, lui, qu'effectivement, qui n'est pas un soutien ni du régime, il soutient la rue il me disait, et c'est très juste, on a donné des chances au régime pour se réformer. On a donné à Khatami des chances pour réformer le pays, il n'y est pas arrivé alors qu'il voulait. On a donné des chances à Rouhani de réformer le régime, pardon, il n'y est pas arrivé. Donc, il soutient ce mouvement de fronde. Il me disait effectivement, rien ne sera plus comme avant. Il y a une détermination. Ces jeunes n'ont rien à perdre. Après, ces grandes formules, je m'en méfie un petit peu parce que on disait un peu la même chose aussi de Bachar el-Assad en 2011-2012. Vous vous souvenez? Enfin, je le disais pas trop parce que je connais la capacité de résilience de ces régimes-là. Et le régime iranien, il est de cette trempe-là, il est de cette eau-là. Et donc, c'est pour ça qu'en Israël, qu'on connaît bien le régime iranien, et je vous dis, le patron des renseignements militaires, il dit, pour l'instant, le régime n'a pas de problème de survie. Donc, moi, j'ai tendance à le croire. Et demain, je n'en sais rien, mais pour que ce régime constitue, à un moment donné, une menace, pour que ce mouvement, pardon, constitue une menace pour le régime, je vous dis, il faut qu'il se structure, il faut qu'il s'arme, et il faut qu'il y ait une masse populaire, un effet, une puissance de la rue derrière lui. Sinon, le scénario à craindre, c'est effectivement par une répression qui sera sanglante parce que le régime est prêt à tout pour sauver sa peau, eh bien, il arrive à éteindre. Mais c'est une extinction, je suis d'accord avec vous, momentanée, parce que s'il n'arrive pas à se régénérer, là, je vois pas bien comment il pourrait se régénérer, parce que il a tué lui-même toutes les ressources qu'il pouvait avoir en son sein pour redonner justement un peu de souffle à ce régime. Mais s'il n'arrive pas à un moment donné à rallumer un peu de flamme, il est condamné à échéance de 2, 3, 4 ans, etc. Voilà mon analyse, mais je reste quand même prudent par rapport aux images, par rapport à la diaspora qui évidemment on peut la comprendre, mais est toujours un peu dans une espèce de comment dirais-je, qui veut y croire, parce que pour la première fois effectivement il y a quelque chose qui se passe, donc elle veut y croire, on les comprend, mais il y a aussi de la part du régime, il a une capacité de résilience qui est très forte et il a une volonté d'en découdre et de sauver sa peau qui est très très forte aussi.
Georges Malbruno, vous qui êtes grand reporter, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage écrit avec Christian Chéneau, Le déclassement français au Maghreb, au Moyen-Orient et au Maghreb. Merci. Juste parce que ce sera peut-être, vous savez, sur notre radio, c'est pas trop le style parce que on n'a pas cette façon de faire, mais il y a toujours une punchline. Votre punchline pour vous, ce serait, la plupart des femmes à Téhéran ne portent plus le voile, mais dans la rue ou chez elles? Chez elles, ça fait longtemps qu'on met pas le voile.
Ah bah, chez elles, ça fait très longtemps. Même dans la rue, ces dernières années, il était parfois un peu tombé, en tout cas dans les voitures. C'est là où le régime a été très mauvais, où s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'ils auraient pu gérer ça d'une manière bien plus intelligente qu'en tuant...
En fermant les yeux.
...iranienne. Voilà, donc aujourd'hui on a eu, je vous l'ai expliqué à votre micro, une calcification du régime autour du noyau dur, ultra-conservateur, révolutionnaire, etc. Et donc, ils se retrouvent entre eux, mais avec gérant une situation d'une manière calamiteuse. Et donc, ils auraient pu gérer... Ils auraient pu gérer le problème d'une manière plus fine, plus intelligente, mais ça n'est plus le cas. Ça pouvait être le cas il y a 3-4 ans, lorsqu'il y avait Rouhani, lorsqu'il y avait Zarif, etc. Là, aujourd'hui, toutes les portes réformatrices, toutes les opportunités de réforme, d'amélioration, de libéralisation timide, etc., ont été étouffés dans l'œuf, et donc ils se retrouvent aujourd'hui entre eux, entre ultras, entre partisans de la manière forte. On verra s'ils survivent, mais en tout cas, vous avez raison de dire, c'est une révolte qui est inédite, et c'est un mouvement qui est en soi révolutionnaire, même si la situation n'est pas révolutionnaire encore, mais elle peut le devenir.
Oui, et Lénine dirait oui, mais il faut un débouché ou il faut une traduction politique. Georges Malbruno, merci. Merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.